Allô?
Salut Olivier.
Salut Rudy, ça va?
Ça va et toi?
Impeccable, impeccable.
Désolé du retard, j'étais en podcast. Donc, interview. Donc, qui est Olivier Bollier? Donc, si j'ai bien compris, tu es le principal co-auteur du livre sur la préparation physique avec Aurélien Broussal.
Voilà, c'est ça.
Et donc, comme je ne te connais pas du tout et que les internautes ne te connaissent pas du tout, on va essayer d'apprendre à te connaître.
D'accord.
Donc, tout simplement, en quelle année tu es né, combien tu mesures, combien tu pèses, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Ouais.
Alors.
D'accord. Alors, c'est parti. Donc, je m'appelle Olivier Bollier, je suis né en 1977. Je mesure 1m97, je pèse 92 kilos. Je dois avoir 10% de masse grasse. Donc, je suis préparateur physique pour athlètes uniquement.
Donc, tu fais ça par athlète, c'est-à-dire pour le particulier?
Donc, j'ai travaillé à l'origine en athlétisme. Après, j'ai travaillé beaucoup en patinage. C'est là que j'ai commencé à devenir pro, à gagner ma vie. Donc, dans les sports de glace. Et puis, j'ai travaillé aussi pas mal, actuellement, je travaille pas mal avec des nageurs. Voilà pour mon activité de préparateur physique, hein. Je te donne les grandes lignes, hein. Je sais pas.
Ouais, bah, on va approfondir tout ça justement après.
En parallèle de ça, je suis formateur. Je travaille beaucoup pour l'UFRAP de Lyon, pour le master prépa physique de l'UFRAP de Lyon. Je bosse aussi pour le CREPS de Voiron, enfin, maintenant qui est plus un CREPS, l'ex-CREPS de Voiron, pour le BPAG2F, qui remplace un peu le BEAQM. Là-bas, je fais des cours d'initiation à l'haltéro et puis développement des outils en personal training. Et puis j'ai une activité d'organisme de formation pour professionnels du fitness, c'est-à-dire les salariés des structures, des clubs par exemple, ont droit à de la formation professionnelle tout au long de leur carrière. Donc là, les patrons cotisent pour ça et puis ils peuvent payer à leurs salariés des cours. Là, je propose des week-ends de formation pour les salariés. Voilà, et puis pour les gens à leur compte, hein, mais c'est principalement les salariés.
Donc voilà, on va reprendre tous ces points en détail. Donc, tu m'as dit que tu entraînais des athlètes. Donc, est-ce que c'est réservé par exemple aux particuliers ou est-ce que ça concerne que des sportifs de haut niveau?
Que des sportifs. C'est pas que, en fait, je voudrais pas entraîner des gens normaux, j'ai envie de dire, mais c'est que, en fait, après, tu sais, quand t'es dans un univers, c'est pas mal étiqueté. Moi, je suis pas mal étiqueté sport de haut niveau. Donc après, les gens, ils connaissent dans cet univers. Et il est difficile d'aller voir ailleurs. Donc c'est principalement, c'est même que des athlètes qui font de la compétition.
Donc moi, j'avais la question, en fait, c'est comment on en arrive là. Parce qu'en fait, tu me dis que t'es préparateur physique, mais comment t'as fait, en fait, pour devenir préparateur physique? C'est quoi ton parcours scolaire?
Alors, au niveau de la fac, j'ai passé les diplômes universitaires, tu vois, qui te donnent accès à ces prérogatives.
Donc, c'est-à-dire?
Alors, moi, à mon époque, il y avait donc DUG, licence, maîtrise. À l'époque, il n'y avait pas prépa physique, il y avait entraînement sportif. Et puis après, j'ai fait un DEA, donc là, c'est pas lié à la prépa physique, mais bon, j'ai fait un DEA en physio de l'exercice.
Et puis, donc, c'est quoi un DEA?
C'était un diplôme d'études approfondies, ce qui est maintenant l'équivalent d'un master 2, en fait.
Ok.
Et c'est pour préparer à la recherche. Puis après, j'ai fait un doctorat.
Un doctorat en?
En sciences du sport, option sciences de la vie. J'ai fait un doctorat, j'ai soutenu ma thèse en 2004.
Et donc, t'as fait ça où?
À Lyon, à l'UFRAP de Lyon. En fait, moi, je suis de Lyon, puis j'ai pas bougé.
T'as toujours fait ça à Lyon. Et donc, après, voilà. Comment? Donc, j'imagine qu'au départ, en fait, t'es pas arrivé tout de suite dans le haut niveau, en fait?
Non. Enfin, quand j'étais dans la tête, parce que moi, à l'origine, je suis lanceur. Je suis lanceur de poids, donc j'étais dans les sports de force.
C'est marrant, ça, d'être lanceur de poids pour un 92 kilos et un 97.
Oui, à l'époque, je faisais pas 92 plombes.
Tu faisais combien?
Je faisais entre 103 et 105. Mais, j'avais pas 10% de ma grasse non plus. J'avais plutôt 20%. En fait, bizarrement, je suis plutôt ectomorphe, tu sais. Alors, moi, c'est toujours compliqué de maintenir mon poids de corps. Donc, dès que je m'entraîne plus, je maigris lamentablement. Et je perds de la graisse aussi en même temps. Donc, voilà. Donc, j'étais plus balèze quand j'étais en sport poids. J'ai fait 16 mètres au poids de 7 kilos quand j'avais une vingtaine d'années. Puis après, j'ai eu deux gros pépins au dos. J'ai tout pété la mécanique.
T'as fait ça comment? Tu t'es fait mal comment avec le lancer du poids?
Non, je fais mal en faisant des squats devant. Mais en fait, c'est pas la photo de squat. Hein. En fait, j'ai arrêté de m'entraîner un an pendant mon DEA parce que c'était trop dur pour faire mon entraînement plus mes études. J'ai arrêté de m'entraîner un an. Et quand je suis revenu, et j'ai chopé mal au dos, alors que j'avais jamais mal au dos. Et le mal au dos est pas passé. Moi, comme j'étais à l'époque, j'étais pas encadré par des professionnels et tout, c'était vraiment tout amateur. J'ai insisté. Un jour, je faisais des squats. Ça a tout pété. Donc, double hernie discale, tout tremblement.
Double hernie discale, hein.
Ouais.
Donc, t'as eu ça à quel niveau?
L5 S1, L4 S5. Classique.
Ah, ouais, les classiques. Et donc, depuis, en fait, t'as pas repris, lancer de poids.
J'ai essayé de revenir, j'ai fait rééducation, enfin répéter, j'ai fait ça deux fois. Et puis après, c'était tellement... Enfin, bon, le moment, c'est, t'en as marre d'avoir mal.
Donc là, après, t'as changé de sport, là.
Ben, après, à ce moment-là, je me suis mis dans l'entraînement des autres, quoi. Donc là, je suis rentré dans l'athlétisme, mais j'étais encore amateur quand j'entraînais...
Donc t'entraînais un club, par exemple, t'étais dans un club et t'entraînais?
Ouais, j'étais dans un club, mais j'entraînais une partie des lanceurs. Et puis, il va... Voilà, c'est pendant mes études. Donc là, j'étais pas pro encore. Je suis devenu pro en 2004, quand j'ai pu travailler pour les patineurs.
Là, comment ils t'ont approché des patineurs, en fait?
Eh ben, en fait, à Lyon, il y a un pôle France d'entraînement. C'est dans une grosse structure internationale.
Donc de patinage...
En danse sur glace,
c'est... Ok, patinage artistique, c'est ça?
Ouais, sauf qu'ils sont deux, et il n'y a pas de saut. Tu sais, il y a des portées acrobatiques, mais il n'y a pas de saut.
Ok.
Donc là... Voilà, c'est ce truc. Et en fait, ils sont à Lyon, le Pôle France est à Lyon. Et pendant deux mois d'été, en fait, ils ont un stage, comme les Américains disent, un summer camp. Ils ont un stage d'été de 8 semaines, extrêmement long, où ils font tous les jours entraînement technique sur glace, entraînement physique, puis entraînement chorégraphique, tu vois, c'est un sport artistique. Et là, pour la première année, ils faisaient leur stage à Lyon. Donc, ils n'avaient pas de préparateur physique, c'est-à-dire qu'ils allaient ailleurs. Donc, quand j'ai su ça, et que moi, j'avais décidé d'arrêter la recherche et de revenir sur le terrain. Quand j'ai su ça, je me suis présenté au Pôle France et puis j'ai présenté le projet que je voulais développer avec eux. Donc ils m'ont engagé pour deux mois pour entraîner.
Pour le stage, justement, ils t'ont engagé pour le stage. Mais en fait, toi, c'était pas ton sport à la base, donc en fait, t'as dû apprendre un peu.
Ah ouais, j'ai dû bosser dessus. En fait, j'ai plus jamais rebossé dans mon sport. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Après, c'est un problème d'argent. Hein. C'est-à-dire que tout le monde avait envie que tu l'entraînes, mais. Après, tout le monde n'a pas les moyens de payer. Donc, en fait,
Donc, ce premier truc était bien payé. C'est ça?
Ben, ouais, c'est la première option, vu qu'ils sont à très haut niveau, des athlètes, au Pôle France, surtout à l'époque. Il y avait de l'argent, ouais. Il y avait de quoi se lancer, si tu veux. Il y avait de quoi se lancer, c'était pas...
Et donc, c'est là, donc, que t'as commencé à entraîner les mecs, et donc, à percer dans le haut niveau, on peut dire, quoi.
Ben, voilà, ouais.
Ben, donc, comment ça s'est passé, ces deux mois?
Ben, très bien. Donc, là, j'entraînais collectivement tout le monde, et au milieu du stage, en fait, Les meilleurs athlètes du pôle, qui ont fait beaucoup plus tard qu'on fait champion du monde, m'ont demandé de les entraîner à titre personnel pour leur saison future, en fait, pour la saison une fois le stage terminé. Le stage est collectif, et puis après, pendant la saison, ils s'entraînent physiquement, individuellement, avec qui ils veulent. Et donc, ils m'ont demandé à ce moment-là de m'occuper d'eux à titre personnel. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, c'est l'année où, en fait, ils font une médaille de bronze au championnat d'Europe, et de là, en fait, ça fait tout enchaîner à partir de.
Donc là, voilà. T'as démarré dans le patinage, donc t'es resté longtemps dans le patinage?
J'ai toujours, ça fait 7 ans là. Je m'appelle cette année avec
eux. T'es toujours avec eux? Ouais,
ouais. Ben eux, ils ont arrêté aux Jeux Olympiques de Vancouver, là ils ont terminé cette année, mais en fait, j'avais pas que. Maintenant, j'entraîne un bon paquet d'athlètes du pôle. Parce que, ben, tu sais, après une fois que t'es dans une structure et puis que ça se passe bien, les gens te font confiance aussi. Quoi.
Donc en fait, t'es souvent dans le pôle en fait pour les entraîner quand il y a les stages et quand ils viennent, c'est ça?
Ouais, mais j'y suis tout le temps, ouais, j'y suis toute l'année. Souvent le matin, toute la matinée, je m'occupe d'eux. Et puis les après-midi, je vois mes autres athlètes, je vais donner mes cours à la fac. Voilà comment ça s'organise.
Et donc, t'as entraîné aussi dans d'autres sports, tu me disais?
Après, c'est à moins haut niveau, hein. C'est un niveau national ou un petit niveau international. En natation, je m'occupe du club de mon natation. Qui est un club où il y a enfin une dizaine d'athlètes de niveau national 1, national 2, un athlète professionnel, et donc je m'occupe de leur muscu. Là, j'ai percuté pour faire uniquement l'entraînement à sec, c'est-à-dire la muscu. Là, j'y suis tous les soirs jusqu'à 6 heures. Et puis voilà, je m'occupe. Là, je les entraîne à titre collectif. C'est-à-dire que c'est un groupe. Tandis que les patineurs, je les entraîne à titre individuel. C'est-à-dire que je les ai tout le temps en entraînement privé ou semi-privé. On n'est jamais plus que deux en même temps que moi.
Ouais, c'est beaucoup plus simple de les faire progresser que les nageurs, quoi. Non?
Ouais, c'est plus simple, ouais. C'est plus simple.
Parce que tu peux vraiment personnaliser le programme à la personne, alors que si t'en as 10 d'un coup, t'es un peu...
Ah ouais, ben là, t'es obligé de faire un peu plus général. C'est fatal. Mais bon. Après, ce qui se passe en collectif, c'est vrai que c'est moins précis. Mais comme il y a l'esprit de groupe, si tu veux, ils tirent la bourre, les mecs. Donc c'est moins précis, mais il y a plus, je pense qu'il y a plus d'intensité de travail, si tu veux. Et quand tu t'entraînes tout seul, toi, tu fais ta muscu tout seul, c'est bien gentil, mais quand t'es à deux, t'as un partenaire d'entraînement, tu peux te donner plus, quoi. Donc c'est moins précis, mais c'est plus intense. Donc c'est impossible.
Ouais, ça revient un peu au même, quoi, tu veux dire, niveau efficacité, quoi.
Ouais, disons que ouais, ça revient un peu au même. Ouais. Par contre, pour la gestion des blessures, tu vois, pour les trucs vraiment pointus, c'est un peu emmerdé en collectif, quoi. C'est-à-dire que t'as un gonze qui s'est fait qui a un syndrome de la coiffe des rotateurs, il est au milieu du groupe de 10, je voudrais faire des trucs avec lui spécifiquement que je peux pas faire parce que j'ai les 9 autres en même temps. Tu vois,
mais tu peux lui donner à faire et que lui il les fasse quand même, non?
Ouais, mais tu vois, il y a des trucs vraiment pointus, il faudrait que j'évalue certains paramètres que je peux pas faire. Alors je peux leur donner des petits trucs à faire, mais je peux pas le regarder vraiment bien, quoi, tu vois. Donc c'est un peu moins individualisé quand même. Mais bon, après c'est une question près de moyens. Hein. Tout le monde, tous les athlètes n'ont pas les moyens de se payer un mec à titre individuel.
Surtout que là, en fait, c'est le club qui paye pour toi, quoi. C'est pas l'athlète.
Ouais, quand j'ai entraîné les nageurs, c'est le club qui me paye. Tandis que quand j'ai entraîné les patineurs, c'est les athlètes qui me payent. Mais tu vois, c'est une logique très différente.
Ouais, c'est différent, quoi. C'est pas... Alors, donc moi, j'y repense. En fait, t'as eu la chance, en fait, d'habiter à Lyon et d'avoir connu le pôle, en fait, pour pouvoir rentrer dans le haut niveau, quoi. C'est ça le truc.
Ah ouais, sinon, c'est infernal. Dans notre profession, il faut savoir que c'est un boulot où on entend vachement parler des préparateurs physiques maintenant. Mais dans toutes les structures professionnelles ou de haut niveau, il y a un préparateur physique. Mais si tu veux, il y a un préparateur physique, mais il y a derrière un nombre incalculable d'étudiants et de mecs qui veulent faire ça. Donc,
c'est important de le dire parce que moi, j'ai beaucoup de demandes de personnes qui veulent devenir préparateur physique ou coach sportif et qui imaginent qu'il y a beaucoup de demandes en fait. Non. Il y a du boulot et en fait, faut. Parce que là, j'interview des mecs qui entraînent pour les Jeux Olympiques, alors tout le monde se dit ça va pouvoir le faire, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de boulot et c'est vraiment. Faut avoir le coup de pouce du destin, quoi. Ouais.
C'est extrêmement difficile. Dis-toi que, par exemple, moi, tu vois, je suis à Lyon, l'Olympique lyonnais. Tout le monde veut être préparateur physique de l'Olympique lyonnais, mais en fait, tu peux pas y rentrer spontanément, tu vas pas poser un CV à l'OL, si tu veux, et c'est de faire qui t'appelle, quoi. Parce qu'en fait, ils en reçoivent des dizaines par semaine. Si tu veux, c'est des univers extrêmement fermés, extrêmement réseautés, et il y a des options de professionnalisation, mais en fait, c'est difficile, c'est très très dur, quoi. Très très dur. Mais bon, c'est possible, il y en a toujours qui arrivent. La preuve, Aurélien, il s'occupe des athlètes anglais pour les Jeux de Londres. On arrive à bosser, si tu veux, il y en a toujours qui arrivent. Il y en a surtout beaucoup qui entraînent à petit niveau, qui font plusieurs jobs en même temps pour y arriver, genre qui sont vendeurs à Decathlon, qui ont quelques heures payées dans un petit club de rugby de Fédéral 3, quoi, tu vois.
Mais bon, ouais, c'est déjà, en fait, on a un boulot à côté, en fait, qui font ça plus par... par passion que plutôt pour en vivre, quoi.
Ben, on peut en vivre, mais il faut savoir que c'est difficile, hein, parce que c'est le message à faire passer. Mais il y a toujours des mecs qui réussissent, toujours, dans tous les jobs. Hein. C'est un peu comme personnel entraîneur, tu sais, plus côté fitness. Tout le monde a envie d'être personnel entraîneur des stars d'Hollywood, mais si tu veux, il n'y en a pas beaucoup, quoi.
Ah ouais, je sais bien.
C'est un peu le même principe, quoi. Donc,
comment t'as fait, donc là je dévie un peu, pour devenir en fait formateur, comme tu le fais maintenant, donc, par exemple comme au Master de Préparation Physique de Lyon, ou pour tes stages pour les profs de fitness, comment ça s'est passé tout ça en fait?
Alors, dans les facs, ils recherchent, pour enseigner à leurs futurs étudiants, ils recherchent des gens qui peuvent apporter des choses qu'ont pas leur enseignant sur place.
C'est-à-dire qui ont en fait des gens qui ont bossé en pratique.
Voilà, c'est exactement ça. Ils recherchent des professionnels de terrain qui ont de l'expérience, parce que en même temps, si c'est pour dire tu vois, des banalités, c'est pas la peine, c'est pour parler de ton expérience, mais il faut aussi pouvoir enseigner à la fac, parce que tu peux être un super coach, mais c'est pas facile de parler devant un groupe de 30-40 jeunes et d'expliquer les choses d'une manière rationnelle, d'une manière un peu universitaire. Donc des gens qui ont la double casquette, si tu veux, on n'est pas très nombreux, quoi. Donc ils recherchent des gens comme ça.
Et donc comment ils t'ont recruté?
Hein?
Comment ils t'ont recruté?
Ben moi, en fait, ils me connaissent parce que j'ai fait mes études là-bas. Donc ils m'ont vu, en fait, pendant toutes mes études. Donc j'étais un peu le candidat local, si tu veux. J'étais un peu le mec sur place. J'entraînais des athlètes qui allaient aux Jeux Olympiques. Ils savaient que je pouvais enseigner parce qu'en fait, avant d'enseigner avec eux, pendant mon doctorat, j'ai enseigné des sciences, quoi. Donc ils savaient que je pouvais enseigner des choses universitaires. Et ils savaient que j'étais maintenant un professionnel de la prépa physique. Donc voilà, j'étais déjà connu sur place.
Et donc pour tes journées de formation après, fitness, comment ça s'est passé ça?
Alors ça, bon, c'est ma dernière activité, ça fait 6 mois que j'ai commencé, donc j'ai pas fait beaucoup de week-ends de formation. Je me suis rendu compte qu'il y avait pas beaucoup de formation actuellement en personal training pour développer des outils de personal training. Donc là, je me suis servi en fait de mon réseau. Là pour l'instant c'est à petite échelle ce que je fais. Je me suis servi de mon réseau personnel. Comme j'enseigne en crèche, en fac, je commence à connaître pas mal de gens, au moins dans ma région.
Et donc ces formations sont accessibles à tous les profs de fitness, c'est ça?
Ouais, en fait.
Et donc qu'est-ce qu'on y apprend exactement?
Hein?
Qu'est-ce qu'on y apprend pendant ces cours? Parce qu'on a pas mal de profs de fitness sur les forums, donc ceux qui sont intéressés.
Ouais, mes week-ends de formation, c'est sur 2 jours. La première journée, j'apprends au coach à développer de l'analyse posturale. C'est-à-dire, tu vois, on place des petites gommettes, mais en fait, c'est des outils pratiques, hein, c'est pas du pipeau. On place des petites gommettes sur ton futur client, et puis on apprend, via l'analyse posturale, à identifier quels muscles sont raccourcis, quels muscles sont trop faibles. Tu vois, pour orienter, pour donner au gars des outils qui va le différencier de la concurrence, quoi. Pour pas qu'on se retrouve à... Parce que tu vois, le personal training, l'image un peu caricaturale que ça, c'est un mec qui vient au milieu des appartements des gens, et puis qui te fait faire des abdos par terre et qui rigole avec toi, quoi. Ça, c'est l'image un peu conne, tu vois, un peu caricaturale. Et moi, j'essaye d'apporter quelque chose qui peut différencier les coachs les uns des autres. Donc des outils qui vont t'amener des moyens de faire évoluer ton client spécifique et individuel. Donc je fais l'analyse posturale, je parle des systèmes de temps sous tension. Tu sais, c'est le système anglo-saxon qui rajoute en plus des répétitions, des séries, des récupes, qui rajoute le système de tempo. Tu sais, c'est un code à 4 chiffres qui monite chaque phase du mouvement. Tu vois, par exemple, un code en 30, c'est un code qui veut dire 3 secondes à l'excentrique dans ton mouvement. Hein. 0 à la phase de transition isométrique, ça veut dire que tu touches la poitrine, tu remontes pour prendre le coucher, tu montes en 1 seconde, tu montes dynamique. Et le dernier chiffre, si c'est un 0, ça veut dire qu'entre tes deux restes, tu prends pas de récup. Donc ça, c'est un exemple banal. Et en fait, ce système de tempo qui est bien développé dans les pays anglo-saxons, un peu moins chez nous, c'est un système qui te permet de créer un nouveau stimulus d'adaptation. Tu vois, tu fais varier les reps, tu fais varier les séries, tu fais varier tes temps de récup.
En fait, t'as plus de facteurs à varier, quoi. C'est ça, t'as plus de variété.
Un autre levier. Parce qu'en fait, quand on réfléchit, quand on dit, en fait, des séries de 10 pour l'hypertrophie, il y a assez peu de gens qui se rendent compte qu'en fait, une série de 10, indépendamment du fait qu'il y a un certain pourcentage sur la barre, une série de 10 que tu fais en 10 secondes, une série de 10 que tu fais en 30 secondes ou en 2 minutes, on voit bien que, par exemple, les pulsations énergétiques sont pas les mêmes, entre 10 secondes, 30 secondes et 2 minutes. Et ça, bizarrement, en muscu, les gens, ils comptent les reps, mais ils comptent pas le temps de travail, ce qu'on appelle le temps sous tension. Donc, j'apprends, pendant mes journées de formation, à intégrer dans tes programmes, tu vois, ça révolutionne pas tout le système, hein, mais ça...
Non, mais ça permet d'avoir une autre baguette à son arc.
Ouais. Qu'est-ce que je fais aussi? J'apprends aussi la mesure des plis cutanés, mais la mesure réelle, parce que c'est pareil. Les gens pensent qu'il suffit d'arriver, d'attraper le bourrelet du bide, et de tirer avec la pince, et pas la valeur.
Et puis on connaît son taux de gras, quoi, comme par enchantement.
Voilà, en fait, c'est un peu plus technique, comme ça. C'est un peu plus technique que ça, la mesure des plis cutanés, donc j'apprends... déjà, quelle pince faut acheter pour avoir une valeur fiable, comment prendre la mesure, à quel endroit, bref, ça prend les lits cutanés. Voilà, tu vois, j'apprends plein de choses que les gars peuvent utiliser en personal training pour dire, et puis pour vendre un service de, que j'espère de qualité supérieure à la moyenne. Voilà.
Et donc ça, combien coûte ce stage? En fait, non, c'est financé par la cotisation des patrons.
Ça coûte environ, ouais, en fait, voilà, c'est ça, je facture environ entre 150, aux alentours de 150 euros par jour, par client, par candidat. Et puis j'en prends rarement plus que, allez, 12, une douzaine, une quinzaine, ça dépend des infrastructures où on est. Donc voilà.
Et donc comment on fait pour effectuer ça? En fait, il y a un site pour contacter ou un email?
Ben en fait, souvent, je fais du mailing, c'est-à-dire que quand je sais, ben là, tu vois, je vais en faire au mois de février, normalement, le week-end, dans un club en hiver, ben je fais du mailing, quoi. Donc les gens intéressés, ils vont à m'envoyer un petit mail, et puis je leur enverrai et le contenu de la formation, et puis les modalités, quoi.
Alors on va voir, pourquoi pas faire une petite pub sur le forum à chaque fois que tu organises un stage. Je pense que ça peut m'intéresser beaucoup, même qui sont pas profs de fitness, qui sont juste passionnés, de venir apprendre tout ça.
J'enverrai une petite plaquette.
Ahmed, à chaque fois que tu fais tes stages, hop, un petit message sur le forum pour prévenir. Je pense que ça peut intéresser. Donc après, j'aimerais bien qu'on parle un peu de ton parcours sportif à toi. Donc, t'as toujours fait de l'athlé ou t'as fait d'autres sports avant?
Non, j'ai fait 10 ans de judo, de 5 ans à 15 ans, on va dire.
Donc, t'as commencé aussi comme les sports de combat, comme Aurélien?
Ouais, en fait, beaucoup de jeunes commencent par le judo.
Donc, à 15 ans, t'as arrêté avant la ceinture noire, ça veut dire?
Non, marron, je me suis arrêté.
Marron.
Et puis, à ce moment-là, en fait, je voulais faire de l'athlé. J'avais commencé l'athlé à l'école et je trouvais ça super. Donc, j'ai arrêté à peu près à ce moment-là pour faire de l'athlé.
C'est marrant, ça, parce que toi, tu passes du judo au lancer de poids, en fait.
Oui, en fait, au milieu, j'ai fait 2 ans de décathlon.
Ah, voilà, ça fait. Et donc, t'étais, en fait, là où j'étais le plus doué, c'était le poids, quoi.
Voilà, c'est pas, c'est les lancers. Donc, je me suis spécialisé au bout de 2 ans en lancer de poids. Voilà. Donc, j'ai fait 16 mètres. Donc, j'étais pas assez jeune. Donc, si tu veux, ça m'a mis, j'étais 2 fois sur les listes ministérielles des sportifs de haut niveau.
Au lancer de poids?
Hein?
Grâce au lancer de poids?
Ouais, grâce au lancer de poids, ouais. Donc, j'ai fait, ça m'a permis ça. À mes études en tant que sportif de haut niveau. Tu sais, c'est un statut un peu particulier où tu as des aménagements. T'es pas obligé d'aller assister à tous tes cours. Donc, tu vois, tu as des aménagements un peu pour en faire. Mais comme je me suis pété bonheur, ça n'a pas duré longtemps.
Ah, c'est con, ça. Bah, sinon, c'est pas mal, quoi. Parce que 16 mètres au poids, c'est pas rien, quoi.
Ouais, c'est
pas ça rien. Ça commence à être.
Ça commence, ouais. Mais bon, tu vois, après, très franchement, je pense que j'aurais fait 17 mètres, très franchement, après. Avec le staff amateur j'avais un entraîneur qui faisait tout, hein. Tu vois, à l'époque, il n'y avait pas de préparateur physique, il n'y avait rien, j'aurais pas eu les moyens d'en payer un, quoi. Donc, je pense pas que j'aurais fait beaucoup plus dans ces conditions que 17 mètres. Donc, tu vois, ça aurait été, c'est 17 mètres.
Ouais, c'était pas encore le compétition international, quoi.
Ah, non. Il faut faire au moins, pour sortir dans les petites compétitions internationales, faut faire en senior, je sais pas, faut faire au moins 18, 19 mètres, quoi. C'est-à-dire que là, il faut vraiment être fort physiquement, quoi. Très fort.
Donc ça, donc je voulais aussi qu'on parle donc le sujet principal en fait de comment on s'est connu par internet, par téléphone, donc c'est le livre.
Ouais.
Donc qui s'appelle La préparation physique moderne, donc qui est sorti il y a maintenant quoi, 2-3 semaines?
Ouais, mi-décembre, un petit mois.
Et donc qui à la base en fait tu es le principal co-auteur avec Aurélien.
C'est bien.
Donc comment vous êtes connus tous les deux en fait? C'est grâce à la formation de Lyon?
Oui, on s'est rencontrés à l'UFAP de Lyon, ouais.
Donc en fait toi t'étais son formateur, c'est ça ou j'ai...
Ouais, c'est ça, ouais, en fait à l'époque je commençais à enseigner, puis je suis venu faire une petite intervention quand il était étudiant. Et puis je me suis rappelé d'Aurélien parce que tu vois c'était un étudiant qui était bien plus qu'un étudiant, c'était un mec brillant quoi, et t'en vois pas tous les jours des mecs comme ça à la fac. Donc on avait un petit peu sympathisé, puis on s'est perdu de vue. Et puis moi, je lis Le Monde du Muscle, enfin, presque tout le temps. Et passé un temps, Aurélien, il écrivait dans Le Monde du Muscle. Alors du coup, quand j'ai vu ce mec, je le connais, je lui ai envoyé un petit mail, et puis du coup, on a renoué contact, mais il y a quelques années déjà ça. Et puis du coup, l'amitié s'est développée, et puis on a bossé ensemble pour des formations à la fac, et puis on s'est dit, à un moment donné,
il faut qu'on fasse... Pour faire un livre, quoi. Au bout d'un moment, vous êtes dit, on va faire un livre, parce que sur le sujet, il n'y avait pas grand chose.
Il y a des trucs un petit peu maintenant en langue française, hein, en langue anglaise, hein, bien sûr, il y en a des caisses, mais en langue française, il commence à avoir des choses, mais il n'y a rien, on pense on pense qu'il n'y a rien pour le très haut, enfin, pour la préparation physique de haut niveau. Là, on a pas mal de trucs sur le fitness, sur on n'a rien ciblé haut niveau. Donc, on a voulu partir sur ce créneau-là, pensant qu'il y avait quelque chose à faire intéressant pour tout le monde.
Donc, voilà, moi, la question que j'ai, c'est en fait, c'est. Donc, ce bouquin, en fait, la cible, c'est qui? C'est les préparateurs physiques, les athlètes?
Étudiants. Étudiants de type étudiants de fac ou étudiants de BP, AG2F. Bref, les gens qui sont quand même branchés, branchés prépa physique. Quoi. Et puis pour les pros en activité, ouais. Pour les pros en activité. Donc. Pour tous ceux qui sont intéressés par le faire, évidemment, c'est pas non plus.
Donc, moi, j'ai commencé à lire le livre, donc, parce que Aurélien me l'avait gentiment donné. Donc, moi, je trouve que. C'est vachement sympa, en fait, c'est qu'on y retrouve, par exemple, c'est toi qui fais le chapitre, c'est la mise en place des tests de ratio de force.
Ouais.
Donc, je pense que ça, on n'en parle pas du tout assez. Et toi, en fait, t'as introduit un truc qui m'a bien plu, en fait, c'est les ratios de force de la coiffe des rotateurs rapport, au développé couché.
Ouais. Bah, développé couché serré, hein.
Et ouais, pas, développé couché anatomique. Donc, c'est ce que t'appelles, en fait, prise la largeur d'épaule, à peu près. Largeur acromiale.
Ouais, acromiale, ouais. C'est-à-dire, pour un mec, en moyenne, ça fait vers 30, pour un gars, une taille moyenne, ça fait 36, 38 centimètres, quoi. Plus pour les grands. Donc, c'est un développé couché qui a la particularité d'être, donc tu mets bien moins lourd, hein, que tu mets normalement, t'imagines. C'est un développé couché, en fait, comme j'explique, qui est, plus spécifique au
sport.
Tu vois, en fait, il y a rarement au mouvement sportif et au mouvement dans la vie tous les jours. Tu veux, quand tu veux produire une force de pousser vers l'avant, tu te mets jamais par exemple, un mec qui fait un rafut en rugby, un mec qui se prend un gonze en face de lui, pour le rafuter, pour se mettre en position de force, il va pas écarter les mains beaucoup comme un couché qu'on voit un peu en culturiste, c'est un couché large. Si tu veux, par exemple, quand tu veux mettre une pêche à quelqu'un, tu vois, tu vas pas écarter ton poing à l'extérieur, tu vois, comme quand tu fais un couché large. En fait, tu te rends compte que la majorité des mouvements fonctionnels de la vie de tous les jours ou les mouvements sportifs, eh ben, tu te rends compte que quand tu veux pousser, faire une extension du coude, eh ben, tu le fais à peu près au niveau de cette angulation-là. Donc, tu vois, c'est un développé couché qui est spécifique à de nombreux sports et en plus, qui est moins agressif sur les
épaules.
Parce que tu vois, quand tu fais un couché large, ou même un couché... même pas très large, mais un couché un peu plus large que ça. Le problème, c'est que ça a tendance à vraiment passer en rotation interne de l'humérus. Donc, le problème, c'est que la rotation interne, conjointement avec des charges assez hautes, ben, parfois, ça crée des petits pépins à l'épaule. Donc, dès que tu commences un peu à activer les rotateurs externes, donc en mettant les coudes un peu plus proches du corps, tu vois, c'est un peu comme l'enseignent les powerlifters du Westside. Si tu vois ce que c'est.
Je connais bien, oui.
Et ben, tu vois, eux, typiquement, leur coucher, c'est un coucher avec les coudes nettement plus proches du corps. C'est les couchers de powerlifting, quoi.
Ouais, mais c'est accentué un peu par leur effet de maillot, en fait, parce que leur maillot qui est tellement serré, ils peuvent pas ouvrir, quoi.
C'est sûr. C'est sûr qu'il y a le problème du maillot, quoi. Mais indépendamment de ça, plus tu serres ton coude au corps, jusqu'à un certain point, évidemment, si t'es collé, tu vois bien que ça arrive pas, mais... du moins, on va dire à l'inverse, plus tu ouvres le coude en rotation interne, c'est-à-dire plus tu le mets vraiment, vraiment
dans l'axe du pec,
sous la barre, plus tu as des chances. Ouais. Donc, c'est sûr que d'un point de vue du recrutement, ça passe plus les pecs comme ça, mais la question est de savoir, si tu te niques l'épaule, ça ne sonnera plus les pecs, quoi. Donc, voilà, il y a des compromis à trouver. Donc, ce développé-là que Charles Poliquin, un entraîneur canadien, a rendu populaire aussi outre-Atlantique. Développé là, il est à la fois moins agressif, plus spécifique à tous les mouvements de la vie de tous les jours, les mouvements sportifs. Donc c'est là-dessus que les ratios sont
calculés. Et moi, je trouvais ça vraiment bien parce que je trouvais que dans aucun bouquin on nous parlait de ça. Et là, vraiment, le truc sur les rotations externes et tout, le rapport de force était vraiment vraiment super. Alors,
un truc incroyable, c'est que incroyable. J'ai peut-être pas apprendre grand chose à tout le monde, mais par exemple, quand tu stagnes au coucher, mais t'as un certain niveau de force, hein, le mec qui fait 70 kilos au coucher, on s'en fout. Mais quand tu stagnes au coucher à un niveau de force conséquent, ce qui limite, en fait, ta production de force, c'est pas le coucher, quoi. Tu vois, en fait, c'est un peu comme l'image de la chaîne en métal. Le maillon faible de la chaîne limite la tension et la production de force de la chaîne globale. somme, c'est pas le problème de savoir la force de tes triceps ou de tes pecs. Si t'es hyper fort en triceps et en pecs, ce qui peut limiter ton coucher, c'est pas les muscles agonistes, ça peut être les muscles antagonistes ou les muscles fixateurs. Et du coup, tu te rends compte que si tu stagnes sur les muscles agonistes et tu te mets à renforcer les antagonistes, type rotateur externe, dont tu parles, la coiffe des rotateurs, tu vas te rendre compte que tu peux péter un plateau de stagnation grâce justement au principe de chaîne musculaire, quoi. Une chaîne, elle est jamais plus forte que le plus faible de ses maillons. Et si tu attaques les antagonistes à un certain niveau, tu arrives à progresser, quoi. C'est pour ça que parfois, quand on dit pour pousser plus fort au coucher, pour arrêter de faire du coucher, voilà, c'est un peu caricatural, mais ça veut dire qu'il y a...
C'est-à-dire que le renforcement des autres muscles aide au final. Et ça, c'est... Faut le dire aussi, le développé couché, c'est pas seulement que les pecs, les triceps et puis le devant d'épaule.
Non. Non, ben voilà, typiquement, Louis Simmons au Westside, il le dit, quoi. Le couché, c'est aussi énormément les antagonistes type grand dorsal, grand rond, trapèze, bref. Tous les muscles, spontanément, quand tu ouvres un bouquin, on dit ils sont pas moteurs du mouvement. Ils sont pas réellement, c'est déjà partiellement erroné, ils ne sont pas vraiment moteurs, mais ils sont stabilisateurs et antagonistes. Et plus l'antagoniste est renforcé, plus l'agoniste, donc celui qui fait l'action, est fort. Ça, j'en parle un petit peu de... Il y a à la fois des preuves scientifiques de ça, du rapport agoniste-antagoniste, et puis il y a aussi des preuves empiriques, quoi. Il y a plein d'entraîneurs qui ont compris que même qu'il soit un athlète qui doit pousser fort, il faut aussi tirer fort, quoi. En clair, il doit être fort au coucher, il faut aussi pouvoir être fort en traction, fort en tirage à la poulie, bref. Il faut être, globalement, il faut être complet. C'est
ça, mieux. Ouais, donc là c'était vraiment un chapitre qui sortait un peu de la norme, mais après on y retrouve beaucoup de peut-être un chapitre sur chaque qualité physique, sur comment organiser son entraînement en cycle. On y retrouve la prévention surtout, et un gros chapitre là-dessus sur la prévention qui est plutôt énorme, qui fait, donc j'ai le bouquin avec moi, qui fait un sacré donc je pense qu'on doit y redire justement ce qu'on vient de parler.
Ouais.
Renforcement dynamique du centre du corps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Couple agoniste-antagoniste.
Ouais, bah là, c'est un peu de ce qu'on parle, hein.
Donc, en fait, on retrouve tout ça dans le bouquin, donc c'est plutôt intéressant comparé aux autres livres où on trouvait vraiment pas ça.
Bah, t'as vu, c'est un gros livre aussi. Il y a du contenu, quoi. Enfin, il y a aussi beaucoup de travail. On a mis 2 ans à le faire. Donc, il fallait qu'on sorte quelque chose qui est conséquent, quoi. On ne pouvait pas s'amuser à faire un petit bouquin, genre un petit fascicule avec beaucoup de photos. Il fallait qu'on produise quelque chose.
Non, mais c'est pour tous les mecs qui font que de la muscu et qui cherchent juste à prendre du muscle. Il faut dire que ce bouquin apprend tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est possible de faire. Parce que c'est pas seulement un bouquin pour prendre du muscle.
Non.
C'est un bouquin pour progresser en sport, dans son sport, comment planifier ses entraînements. Parce que souvent sur le forum, on nous demande comment, alors je fais de la boxe, comment je fais et tout. Et grâce à ce livre, on va pouvoir apprendre à planifier ses entraînements.
En culturiste, on a un article de Fred Monpo. Tu as dû le voir.
Ah ouais, c'est... justement, on n'est pas trop d'accord, mais.
Oui, bah après, tu sais, c'est.
C'est vrai, quand t'en parles, en fait, je sais pas si tu lis mon site, mais toi, surtout, si par exemple, je prends la page 71, quand il distingue les 4 types d'hypertrophie, tu vois. Ouais, là, déjà, on est moins d'accord, quoi. Tu vois, quand il met l'entraînement en culturiste en série au-delà de 10 répétitions, va composer quand c'est important de glycogène, bon ça on est d'accord, blablabla. Et après qui dit faut que l'alimentation soit hyperglucidique pour que ça compense le volume et puis qui distingue la masse, le volume et compagnie. Tu vois, on arrive à plus être d'accord, quoi. Parce que pour nous tout ça en fait.
Après. Oui, t'écoutes.
Ouais, pour nous en fait sur le forum, qui avait même sur le site, tout ça on s'est bien rendu compte que tout ça c'était vraiment. Donc comme j'en avais parlé à Aurélien, son podcast sort ce week-end justement. En fait, l'objectif du bouquin était de montrer de tout ce qu'on parlait en fait. Et donc d'amener matière à réflexion. Donc là en fait, sur tout ce qui est hypertrophie, je pense qu'on est d'accord pour dire que tout hypertrophie à peu près en même temps. Après à divers degrés, mais bon, c'est pas... J'ai pas l'impression que, par exemple, mon pot cite tissu conjonctif, 13% du poids du muscle. Non, mais d'accord, on est d'accord que ce 13%, il reste toujours 13%, quoi.
Déjà, je sais pas si les 13% sont, Fred dit ça, mais, c'est lui qui le,
Voilà. C'est lui qui s'engage.
Je prends tout ton bonnet, si tu veux.
Ouais, bah c'est ça.
Scientifiquement,
ça tient pas la route.
On n'a pas. Alors, je sais pas si t'es abonné à JSTR, c'est Journal of Science and Conditioning Research. Il est sorti un article.
Comment tu dis que ça s'appelle ? Dis ça plus doucement.
Journal, je te le fais à la française. Hein. Journal of Science, donc la force, and Conditioning Research. C'est un peu le journal qui traite des problèmes de préparation.
Ah ouais, je suis pas abonné, mais je vais m'abonner. C'est payant ce truc-là ?
Comment ça s'appelle ? Ouais, c'est payant, mais c'est pas cher. C'est la grande revue scientifique américaine et mondiale, du coup. Donc, il est sorti un article en 2010 de Schoenfeld. Le thème, c'est les moyens de développement d'hypertrophie. Le gars, il a fait ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire qu'il a compilé beaucoup d'études qui traitaient des moyens de développer l'hypertrophie. Et donc, il est allé voir aussi ce qu'il disait sur l'hypertrophie ce qu'on appelle sarcoplastique, hein. Bon, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais le terme, on le retrouve dans la littérature. Et en fait, c'est des hypothèses, il faut être sérieux. C'est-à-dire qu'il y a des hypothèses qui stipuleraient qu'il y ait éventuellement des adaptations, pas seulement en termes d'augmentation de la section transversale de la fibre musculaire, mais d'autres trucs autour. C'est ce que Fred dit. En fait, c'est des hypothèses. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'études qui sont allés vérifier à l'intérieur du muscle ce qui se passait, tu vois.
Mais ouais, c'est exactement ça, c'est exactement ce qu'on dit. Dans le truc, en fait, c'est qu'il n'y a aucune preuve que ça existe, et empiriquement...
Ouais, mais il n'y a pas de preuve, ça n'existe pas non plus.
Ouais, ouais. Mais empiriquement, ça ne se démontre pas, quoi, c'est ça le problème. C'est le problème, c'est pas un problème, quoi, mais...
Mais qu'est-ce que t'en penses? Nous, on a repéré en prépa physique qu'il y a un décalage, si tu veux, entre parfois le volume musculaire de certaines personnes et leur niveau de force. En clair, il y a des gonzes qui ont l'air, qui sont vachement moins forts que leur volume musculaire le laisserait prévu.
Laisserait paraître, ouais, mais je vois ce que tu veux dire, mais
en contrario, t'as des gonzes. Ouais. Et à contrario, t'as des gonzes qui sont tous, qui n'ont pas un volume musculaire énorme, qui sont monstrueusement forts comparativement. Puis quand tu regardes en power ou en altéro, par exemple, dans les petites catégories de poids, les gonzes, ils font des trucs pas possibles. Et visuellement, ils ressemblent à tous, sauf à des culturistes, tu vois.
Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, tout ça, en fait, déjà, de comparer deux individus, pour moi, c'est déjà une erreur, parce que tu peux pas, en fait, ce que tu peux dire, c'est qu'un individu qui a plus de, genre, tu prends toi à 92 kilos et tu prends 3 kilos de muscle, on va dire, en fait, t'as un potentiel de force qui est beaucoup plus grand à 95 kilos de muscle qu'à 92. Tu vois le truc, en fait, pour moi, t'es plus fort, tu peux pas comparer deux personnes parce que ça va dépendre du levier. Si le mec, on prend le coucher, par exemple, s'il a les bras courts, puis il y a une grosse cage, et puis en plus il a un triceps super long, les pecs longs, forcément qu'il va être plus fort que le mec qui a des grands bras, qui a pas de cage, puis qui a pas de triceps, quoi.
Je vois ce que tu veux dire.
Moi je pense qu'il faut comparer l'individu par rapport à lui-même, quoi.
D'accord, alors prenons le même gonze. Je vais me dire ce que t'en penses. Est-ce que t'as pas préféré, suivant le nombre de reps que tu fais, est-ce que t'as pas préféré qu'il y a certaines fourchettes de reps qui entraînent une augmentation du poids de corps, ok, mais qui entraîne, avec l'augmentation du poids de corps, une augmentation de la force réelle, mais plus faible que d'autres reps, d'autres schémas de reps, qui entraînent aussi une augmentation du poids de corps, mais vachement plus de force. Quand je dis force, je parle de 1 RM.
Okay. Ah oui, ça je suis d'accord avec toi, mais pour moi ça dépend du type d'entraînement, quoi. Si tu fais des séries de 5, des séries de 3, tu fais de la force, c'est sûr que tu vas prendre plus de force que si tu fais tes séries de 10, 12, 15.
Et puis du coup, plus de volume aussi, enfin plus de masse. La force, c'est
pas... moi, je pense que tu prends plus de muscles si tu fais des séries un peu plus longues, quoi. Si le mec qui prend de la... Pour moi, en fait, le chemin que t'as pris pour acquérir cette force compte beaucoup pour le volume musculaire que tu vas avoir, quoi.
Les hypothèses un petit peu... en fait, certains auteurs donnent en fourchette de rep. Hein. Ils donnent... 6 à 8 reps, ça serait de l'hypertrophie qui entraînerait une forte augmentation et de masse musculaire, une bonne augmentation de masse musculaire, et aussi en parallèle une bonne augmentation de force, tu vois, 6 à 8. Et puis l'autre fourchette, la fourchette 9 à 12, c'est plus une hypertrophie un peu culturiste, j'ai envie de dire. Et là, les mecs disent, 9 à 12, bien sûr, il y a une augmentation de la masse musculaire, énorme, peut-être plus grand que la fourchette 6 à 8, mais par contre, les mecs te disent, en l'impression que les gonzes, leur force, elle augmente moins que la fourchette 6 à 8.
Alors ah ouais, mais pour moi, c'est le système nerveux, ça, parce que c'est sûr que si tu prends deux, un mec qui est tout le temps habitué en série de 9 à 12 et l'autre toujours en 6-8, si tu leur fais tester un maxi à tous les deux, même si c'est le même mec, tu vois, il va pas être habitué à la charge lourde, donc forcément, nerveusement, il n'aura pas la capacité de soulever la même charge, même si potentiellement, musculairement, il l'avait, quoi.
Mais d'accord. Et c'est ça, en fait. Et les mecs, ils disent, l'hypertrophie sarcoplasmique, ça serait, je dis au conditionnel, ça serait plutôt les séries 9-12, parce que on attaquerait moins, l'augmentation de la masse musculaire, et leurs preuves, ils disent, le mec, il prend moins de force, tu vois. Mais il prend du volume, donc il est où ce volume? Si c'est pas de la fibre musculaire, parce qu'il est pas aussi fort qu'il devrait, c'est quoi? Voilà, c'est ça les hypothèses.
Ouais, mais c'est parce que la force, pour moi, la force, c'est tellement de facteurs. Par exemple, tu prends le bouquin de Marc Vouillot, ouais. Qui s'appelle la force athlétique.
Ouais.
Le mec, il t'en cite au moins 10 des facteurs de force, quoi.
Ah, c'est monstrueux.
En fait, prendre de la force, oui, pour le muscle. Mais prendre de la force, si tu veux faire du muscle, prendre de la force utile sur des séries mi-longues, quoi.
Voilà, et ben c'est ça. Je pense que les gonzes, quand ils parlent d'hypertrophie sarcoplasmique, ils parlent d'hypertrophie qui est un peu plus loin des
facteurs. Hypertrophie moins utile, on va dire.
Donc du coup, ils le mettent sur autre chose que la fibre, tu vois. Ils le mettent sur le sarcoplasme, ils le mettent. Mais c'est une hypothèse, en fait, on n'en sait rien du coup, quoi.
Bah, c'est ça le truc.
C'est pour dire ce que tu dis, quoi.
C'est bien. C'est pour ça que j'aime pas trop parler d'hypertrophie sarcoplasmique parce que je trouve que. C'est pas le bon terme, quoi. Pour moi, si demain, avec ce que je fais là, je fais de la force, et ben j'ai un potentiel de force qui est énorme comparé au mec qui fait qui a la même longueur de bras que moi et qui fait 5 cm de bras en moins.
Ouais, d'accord. Non, mais en fait, c'est juste un problème de terme. Tu fais bien de le souligner, quoi.
Ouais, non, mais je pense que c'était important d'en parler parce que sur le forum, quand il y a eu l'extrait du livre qui parlait justement de l'hypertrophie sarcoplasmique, on a eu quelques retours un peu virulents.
Mmh.
Et donc, moi, j'en avais parlé avec Aurélien, justement, on avait parlé un peu de ça. Je pensais que c'était important de montrer que justement, vous n'étiez pas des rigolos.
Non, je pense qu'on n'est pas des rigolos, mais ce qui est sûr, c'est que quand on veut commencer à justifier scientifiquement des choses que sont compliquées, quand on lit les études, c'est pareil, les mecs ils citent des études, mais en fait ils n'ont jamais vu l'étude, quoi. Tu vois, une étude scientifique, quand tu rentres dedans, tu te rends compte qu'il y a d'autres choses que ce qui est marqué dans le résumé, quoi. Donc en fait, et surtout, il y a souvent des hypothèses qui justifient les résultats de l'étude. Une hypothèse, c'est juste, on pense que. Donc, pour ça, t'as raison, mieux utiliser des termes moins scientifiques au risque de passer pour quelqu'un d'un peu plus empirique, que vouloir prendre des termes scientifiques qui, peut-être, au fond, sont pas les bons. Donc, tu fais bien de le spécifier. Oui.
Ouais, non, c'est juste que des fois, tu vois, quand, nous, on sait que c'est des hypothèses, donc ça va, tu vois, mais quand quelqu'un qui arrive sur un site, il a lu ça et n'arrive pas à comment. En fait, il croit tout connaître alors qu'en fait, on se rend bien compte que plus on en connaît, moins on en sait, quoi. J'ai envie de dire.
Ça, c'est ce que m'a appris mon doctorat, c'est pendant quand tu fais une thèse, plus tu creuses sur un sujet, mais un sujet vachement pointu, c'est pas un sujet général comme ça. Quand tu creuses sur un sujet hyper pointu, plus tu creuses, plus c'est la merde, moins tu comprends quelque chose et plus tu te rends compte que c'est que les connaissances sur le sujet, il y a plusieurs écoles, quoi, tu vois, il y a ceux qui pensent comme ci, il y a ceux qui pensent comme ça, mais dans les deux cas, les mecs, c'est ni des charlots, ni dans le premier camp, ni dans le deuxième, quoi. C'est ça que ça t'apprend, les
tiens. Voilà, c'est là que tu vois qu'en fait, la plupart des mecs qui font les études, c'est pas des cons comme souvent ils se font passer, c'est des mecs qui mettent des hypothèses, et en fait, c'est ceux qui répètent sans comprendre, qui sont pas très futés, quoi.
C'est ça, mais bon, c'est compliqué à lire une étude, hein. il faut reconnaître, hein.
Donc là, par contre, j'ai l'impression que tu lis beaucoup ce qui existe sur Internet. Donc tu me parlais de Politien, du Westside, donc t'es beaucoup sur Internet.
Oui, je suis beaucoup sur Internet. Puis en fait, je suis beaucoup dans les bouquins aussi, quoi. Parce qu'avant Internet, il y a toujours les bouquins, quoi. Donc oui, je suis pas mal sur Internet. Je connaissais ton site avant qu'on. J'aimais bien lire ton site et j'aime toujours bien. Et ouais, je suis pas mal sur Internet, puis je suis pas mal, comme je lis nettement pas mal l'anglais, je lis autre chose que les auteurs français, parce que déjà il n'y a pas des maths.
Ouais, la plupart des recherches sont en anglais, quoi.
Ouais, puis même, quand tu vas aux États-Unis, tu vas dans une librairie aux États-Unis, tu vas au rayon muscu, au rayon sport, ils vont par terre le nombre de livres qu'il y a.
Hein. Moi quand j'ai été, j'ai vu, t'en as un paquet, quoi, ça s'arrête pas, quoi.
Ouais, mais faut voir là-bas le pays, il est déjà plus grand, et puis il faut voir aussi l'argent qui est investi dans le ben, l'issue, quoi. Mais on peut pas comparer notre petit pays et puis les États-Unis, surtout sur le domaine de la force, quoi. Surtout sur le domaine de la force. Et, mais par contre aussi, il y a plein de bouquins qui sont pas des bouquins scientifiques, c'est-à-dire que c'est des bouquins d'entraîneurs, c'est des mecs qui ont entraîné à haut niveau pendant 20 piges, et qui te font des bouquins sur leurs pratiques empiriques, quoi.
Et moi, je trouve ça beaucoup, moi, je trouve ça plus intéressant que les recherches scientifiques, même.
Ben, moi, j'aime bien les deux, parce que, en même temps, tu vois, par exemple, si tu lis le bouquin de Tom Platz, ou le bouquin de Dorian Yates, ou tous ces mecs, c'est fantastique, c'est des mecs qui ont une expérience fabuleuse, mais il te manque aussi derrière une réflexion un peu plus posée. Puis si tu lis des bouquins que de chercheurs, du coup, il te manque l'expérience, quoi. Donc je trouve que c'est bien de lire les deux, parce que comme ça, tu comprends un petit peu, essaye de comprendre les choses, et puis tu prends l'expérience des mecs, quoi.
Ouais, c'est vrai, moi j'aime bien lire les retours d'expérience, que je trouve que comme les études ça avance pas trop sur le domaine de l'hypertrophie, je trouve que c'est bien d'avoir des nouvelles idées par rapport à ce que font les mecs. Donc c'est pour ça que j'aime bien les forums aussi, quoi, c'est les retours un peu d'expérience par rapport à l'entraînement.
Tout le monde peut dire un peu des trucs, quoi. Là, tu peux dire des...
Voilà, et en fait c'est jamais une... c'est rare. Quand un mec s'entraîne et qu'il a des résultats, c'est rarement dû à... aux conneries, quoi. C'est souvent parce qu'il a fait un truc qui lui convenait, et donc ça peut donner des idées.
La truc, le risque, c'est que c'est généralisé, quoi.
C'est-à-dire voilà, c'est ça. C'est la généralité qu'il faut.
Le mec, s'il fait Olympia, c'est pas parce que ça a fonctionné sur lui pour faire Olympia avec tout ce que tu peux imaginer lié à la préparation à Olympia, ça va fonctionner pour le gars qui fait 3 par semaine de la muscu à la salle, quoi. Et après, le risque, c'est ça, c'est la généralisation à outrance. Bon,
comme le font la plupart des magazines de musculation.
Mais bon, après, il y a la logique commerciale derrière aussi.
Ouais, je suis bien d'accord. Bon. Donc, comme pour Aurélien, donc avec Aurélien, justement, vous allez écrire des articles pour le site.
Ouais, avec plaisir.
Donc, c'est vous deux qui allez intervenir sur tout le développement, un peu préparation physique du site, parce qu'on a beaucoup de demandes sans arrêt sur le forum. Et un programme pour la boxe, et un programme... Donc je pense que déjà apprendre quels sont les sites d'un entraînement ou choses comme ça permettront à beaucoup d'y voir clair et d'apprendre un peu à planifier leur entraînement. Donc je pense que c'est important de dire que c'est pas deux rigolos qui vont écrire des articles, c'est plutôt deux caïds de la préparation physique.
On espère, hein, on fallait pas des rigolos, mais c'est pas à nous de le dire. Alors, ce qui est sûr, c'est que notre métier, c'est de préparer des athlètes
de haut niveau.
De haut niveau. Mais après, c'est pareil, hein. On peut dire que, est-ce qu'un bon préparateur physique, c'est un mec qui entraîne des mecs aux Jeux Olympiques, ou c'est le niveau des athlètes entraînés qui fait de lui un bon préparateur physique? Pareil, tu prépares un mec à Olympia, est-ce que c'est brillant parce que le mec va à Olympia, ou est-ce que le mec, il a le potentiel d'aller à Olympia? Et t'es la bonne personne au bon moment. Difficile à dire. Par contre, quand t'as entraîné 10 gonzes qui vont à Olympia pendant 20 ans, là, il y a des chances que ce soit toi qui... Enfin, que t'aies des choses à dire intéressantes. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tout à fait. Donc, as-tu quelque chose à rajouter? Parce que je pense qu'on a fait un peu le tour pour ce podcast.
Ah, écoute, bon, là, c'est instructif. Hein.
De toute façon, nous pourrons en refaire... grâce aux questions sur les forums, voir s'il y a d'autres sujets qui veulent être abordés. Donc voilà. Donc à plus sur Superphysique.
Salut Olivier, à bientôt. Salut.